Comment est-ce que vous êtes arrivé à la Fondation ?
Ils m'ont demandé si je serais d'accord d'aider un peu à la Fondation Suisse d'études. J'ai dit, mais pourquoi pas, si on s'intéresse à autre chose qu'aux résultats scolaires des étudiants. Et ça a commencé comme ça.
Une des premières conditions que nous formulons à l'égard des candidats, c'est qu'il faut qu'ils aient 5,3 en moyenne. Donc on vous a fait des concessions. On a essayé de cacher un peu notre jeu.
Non, parce que moi, les étudiants brillants ne me gênent pas. Ce qui m'aurait gêné, ce qui m'a gêné tout au début, c'est les bégaptes. Ça n'allait pas du tout pour moi. J'ai dit, mais attendez, quand on traduit ça en français puis qu'on dit doué, on sent un eugénisme là derrière. Au niveau des mots, ça ne colle pas. Ça ne me convient pas, ça. Ce n'est pas des gens comme ça qui sont intéressants. Et puis, on a discuté un moment et ils m'ont dit, mais quel terme ? On a discuté un peu ça et c'est là que j'ai sorti le mot talentueux. Je préférerais, moi, les gens talentueux aux gens doués. Et puis, en fait, ça leur a plu, puis on s'est écrit après. Donc, personne ne m'a rien caché, mais j'ai aussi, moi non plus, j'ai aussi dit très clairement que c'était pas le fait que les gens étaient talentueux qui m'intéressaient, c'était ce qu'ils faisaient de leur talent.
Voilà, alors, comment est-ce que vous définissez le talent ? Qu'est-ce que c'est que le talent pour vous ?
Mais moi, je crois que tous les humains sont talentueux, mais ils ne savent pas toujours le domaine dans lequel ils sont talentueux. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de développer les talents.
Alors, comment est-ce que vous avez défini votre rôle de professeur de confiance ? Alors, est-ce que c'était justement d'aider ces jeunes à développer leur talent ?
D'abord, je ne l'ai pas défini, je l'ai vécu. Donc, on m'a dit, voilà des jeunes. Alors, j'ai dit, je vais les réunir, ces jeunes. Alors, les premières années, il se trouve que tous les jeunes qui étaient dans mon groupe étaient dans la région de Lausanne, effectivement. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. On a aux États-Unis, on a en Allemagne, il y en a partout. Mais à l'époque, la mobilité se faisait après les études. Et puis, ces jeunes ont fait... Moi, j'ai surtout cherché d'abord à les écouter. Et je me posais plutôt la question, qu'est-ce que je peux faire pour les aider ? C'était ça, ma question. Mais je n'ai pas posé ça comme a priori. Alors après, chaque cas est différent.
Vous êtes toujours senti en mesure de vraiment fournir cette aide ?
Vous savez, quand on a besoin d'un conseil, on ne dit pas « j'ai besoin d'un conseil ». On explique un problème. Et alors ça, je peux vous dire que j'ai toujours eu là aucune difficulté à écouter ce qu'ils me racontent. Et puis, vous en avez un qui dit, l'école, ça va bien, mais mes parents voudraient que... Alors bon, quand on me dit ça, je comprends qu'il y a un problème interne. Il aimerait faire plaisir aux parents, mais dans le fond, c'est pas ce qui lui fait plaisir. Donc
là, ça consisterait à plutôt les confirmer dans leur véritable motivation.
Non, pas toujours, mais à écouter. Parce que vous savez, souvent, quand vous écoutez des jeunes, comme ça, à la fin de l'entretien, ils disent, maintenant, je vois clairement ce que je veux. Alors c'est parfait, j'ai rempli mon rôle. Mais je ne cherche pas à l'amener ici ou l'amener là. Mais j'aimerais qu'il se réalise. Donc, vous voyez, celui qui faisait la physique, puis qui me dit, dans le fond, je ne suis pas sûr, c'est ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on a discuté d'un tas d'autres choses, de sa copine, de ce qu'il faisait pendant l'été. Et puis, un jour, il me téléphone, puis il dit, écoutez, j'ai bien réfléchi à notre discussion. Moi, je dis, ah bon ? Parce que moi, je n'aurais pas été capable de la résumer. Est-ce qu'on pourrait se voir ? Parce que je crois que je vais prendre des décisions. Ah bon ? Mais bien sûr, venez. Alors, on s'est revus et on a discuté. Et puis, il m'a dit, j'ai compris maintenant ce que je ne veux pas. Ah, ça, c'est déjà un grand progrès. Puis après, il m'a expliqué ce qu'il voulait faire. qui m'a dit, mais il faut que je change dans cette école de section, ça va être compliqué. Je lui ai dit, ah non, dans cette école, c'est simple. Moi, je peux vous aider là, parce que je suis dans une position qui va me permettre de tout court-circuiter. Alors, on a pas mal discuté. Puis après, j'ai donné deux coups de téléphone aux deux responsables des deux sections pour leur expliquer la situation. Pour me dire, alors, si tu as déjà fait le travail, c'est pas la peine qu'on s'en mêle. Alors, tu nous écris un petit mot pour confirmer. Et l'étudiant, il n'en revenait pas. Il changeait d'un coup. On lui créditait ce qu'il avait fait en physique pour aller en informatique. Et puis, on a continué de se voir. Puis après, quand il a fait une thèse, on a continué de se voir. Puis après, il est venu me dire, même mon directeur de thèse, j'en suis pas toujours très content. Je dis, non, mais il faut lui parler.
Définition d'un directeur de thèse, souvent.
Souvent. Alors, on a un peu discuté comment expliquer au directeur de thèse, que je connaissais très bien, comment lui expliquer qu'il faut qu'il lui laisse plus de liberté, d'aller dans la direction qui l'intéresse. Alors, c'est ça mon rôle. Mais chaque cas est différent.
On trouve des retombées dans les rapports annuels.
Oui.
Où ils disent toujours, ah, mais j'ai eu des discussions avec le professeur Jaco. Ils me disent, mais c'est incroyable, mais tout le monde parle des discussions avec le professeur Jaco. Mais comment est-ce possible? La question que je voulais vous poser, qui a encore dans le rôle de professeur aujourd'hui, dans le monde académique d'aujourd'hui, la capacité de faire ce que vous faites, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute des étudiants? Est-ce que vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes un peu...
Mais non, ça pose aucun problème. C'est une question d'attitude. Vous savez, ça ne prend pas de temps. Hein. Parce que j'ai un étudiant qui vient, je dis, passez à midi me voir. Et puis on discute dans mon bureau une demi-heure, trois quarts d'heure. On va manger quelque chose dans un self-service là, d'étudiants. On revient dans mon bureau. Éventuellement, on boit un café, il est 1h30, et puis il repart au travail, et moi aussi.
Donc, que l'université soit organisée d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait le système de Bologne ou pas, selon vous, le rôle est le même.
Absolument.
Mais qu'est-ce que cela vous a apporté à vous?
Moi, j'ai rencontré des gens passionnants. Vous savez, quand il y en a un qui m'a dit, moi, j'aimerais aller en Chine. Mais je veux faire des choses en Chine. Je lui ai dit, mais là, je peux vous aider en Chine actuellement seulement à Pékin. Parce que c'était un étudiant en physique. Je lui ai dit, je connais un gars super qui a fait une thèse à Zurich et puis qui parle allemand. Et puis je lui ai donné le nom de ce... Il n'était pas vraiment professeur, je sais plus ce qu'il était, dans une grande université chinoise de Pékin. Et puis, l'étudiant lui a écrit. Puis, le chinois lui a demandé s'il avait déjà lu un livre. Et puis, l'étudiant a répondu non, mais je vais le faire. Et deux semaines après, il lui a répondu qu'il avait lu le livre. C'était passionnant. Alors, Monsieur Lou, le chinois, il m'écrit, il me dit, dis donc, tu as un étudiant qui en deux semaines a lu ce livre, il doit être génial cet étudiant. Je lui ai répondu, oui, tu as raison, il est génial. Ok, je l'engage. Et il a fait 3 ans en Chine.
Mais vous, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? C'est une satisfaction de voir d'autres personnes.
Une satisfaction vis-à-vis de mon copain Lou, une satisfaction vis-à-vis de l'étudiant,
oui.
Puis une satisfaction générale de me dire, on peut encore faire des choses hors du système. Parce qu'évidemment, on n'a pas cherché de correspondance, de rien du tout. On s'en fout.
Donc, je dois vous dire, vous n'êtes pas quelqu'un de dur.
Qu'est-ce que vous appelez dur?
Non, je vais vous dire. Vous êtes un représentant des sciences dures, des sciences exactes.
Ça.
Alors, aujourd'hui, on a la mode de l'interdisciplinarité. Et nous-mêmes aussi, nous vivons de ça, à la Fondation. Donc, si
oui.
c'est notre raison d'être. Alors, comment est-ce que vous voyez cette ouverture interdisciplinaire? Vous êtes professeur de production industrielle et de microsystèmes de contrôle de qualité, de techniques d'assemblage de matériaux. Alors, quel est, disons, le lien avec les aspects plus humanistes?
Est-ce que vous connaissez le philosophe suisse Ferdinand Gonzette. Je crois qu'il est né dans le canton de Berne, dans le Saint-Imier. Il a été professeur à l'université de Berne, puis a été professeur au Poly à Zurich. C'est quelqu'un qui est devenu aveugle pendant ses études ou avant. Ferdinand Gonzette, pour moi, c'est un maître à penser. Il est mort en 1975. Et ma première année d'études à Lausanne, j'habitais à 100 mètres de chez lui. Et j'ai participé à un colloque sur l'ouverture à l'expérience. Et puis, il m'a invité à venir le voir régulièrement. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Et ça, c'est pour moi un maître à penser. C'est une philosophie de l'ouverture. Et sa méthodologie s'applique parfaitement bien aux sciences dures, comme vous avez appris, mais elle s'applique à un tas d'autres choses. Je continue de travailler dans ce domaine. Puisque samedi, j'étais à Lausanne où on a organisé un colloque sur l'esprit critique. Où on avait des gens comme M. Cohen Tanuji, qui est un physicien de haut niveau, mais on avait aussi des gens du domaine littéraire, de la philosophie, des mathématiques, et on discute de ces problèmes d'ouverture aux autres, de comprendre les autres. Donc pour moi, je n'aime pas les barrières, je n'aime pas les frontières, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être médiocre. Simplement, il faut avoir un esprit tel qu'on arrive à échanger avec l'autre. Donc on arrive à expliquer les points dans lesquels on a travaillé davantage et on peut apporter quelque chose aux autres. Mais il faut se mettre plusieurs ensemble.
Donc les problèmes techniques, finalement, sont toujours de nature interdisciplinaire.
Mais toujours. Tous les problèmes sont... Mais vous savez, le problème de la physique des particules, c'est interdisciplinaire. Simplement, pour y avoir
mathématiques
accès...
et observation.
Oui, mais pour avoir accès, il faut évidemment beaucoup travailler pour comprendre. Mais si vous avez un spécialiste en face de vous, il va vous dire les choses de telle manière que vous allez pouvoir suivre son raisonnement. Mais il faut qu'il en fasse l'effort. Et moi, je suis toujours pour qu'on fasse cet effort de communication pour que l'autre nous comprenne.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'un des fondements de cette tendance, de ces besoins d'interdisciplinarité, c'est aussi le questionnement éthique en ce qui concerne la responsabilité des chercheurs ?
Vous savez, le boulanger, il a aussi des problèmes éthiques. Quand il fait du pain, quand il fait toutes sortes de pains, il en a aussi des problèmes. Se demander s'il a raison d'offrir tous les jours un autre pain pour attirer plus de clients. Ou si finalement ça ne sert à rien. Et puis quand il fait des pains spéciaux, il les vend plus cher. Est-ce qu'il ne crée pas un problème dans la société avec ses pains chers ? Tout le monde a des problèmes d'éthique, mais pour moi, c'est des problèmes de responsabilité. Alors en tant que chercheur...
Et votre responsabilité en tant que chercheur...
Bien sûr, elle est toujours engagée. Mais c'est responsabilité vis-à-vis de la société. Est-ce qu'on a raison de faire ça ?
Est-ce que vous avez déjà posé des questions dans votre carrière lorsque vous avez conçu des produits ou des solutions ?
Parce que
vous êtes dans l'automatisation.
Voilà.
Donc il y a deux aspects. D'une part, l'automatisation croissante, ça permet de produire plus à de moindres coûts, même en Suisse, ou de produire, disons, de meilleures machines pour pouvoir les exporter. Donc ça crée quelque part des places de travail à haute valeur ajoutée. Mais d'autre part, il y a d'autres places de travail qui disparaissent aussi.
Voilà. Hein? Alors, il y avait Alfred Sauvy, vous avez entendu parler, génétique des populations. D'ailleurs, par certains points, Jacquard était dans la même direction. Alfred Sauvy, il s'est beaucoup occupé de statistiques et puis il a redressé beaucoup de choses. Alors, lui, il avait une notion Il disait, si chaque individu apprend à être autonome, à pêcher son poisson pour se nourrir, alors il imaginait, par la pensée, une île, vous avez tous les gens qui pêchent. Et après, il dit, maintenant, vous avez un gars qui réfléchit, qui se dit, mais si je mettais trois lignes au lieu d'une, je pourrais pêcher plus de poissons que je n'en ai besoin. Mais j'ai un voisin qui pourrait cesser de pêcher puis travailler pour moi. Mais je le ferais faire la cuisine. Alors, chez Sauvy, il est allé très loin dans son raisonnement. Et puis, son raisonnement était le suivant, c'est de dire... Si on organise bien la vie, on arrive à survivre avec moins de problèmes. Donc, là, il revenait sur Maslow et les besoins. C'est-à-dire, dès qu'on arrive à satisfaire les besoins de base, on peut commencer de s'occuper de se réaliser soi-même. Là, je saute des étapes dans la pyramide des besoins. Mais l'objectif final...
On peut produire des films, on peut écrire des romans.
On peut écrire des romans, on peut faire des articles...
Faire des thèses de philologie.
Faire des thèses de philologie. N'est-ce pas? Mais pour ça, il faut qu'on organise la société pour qu'on arrive à produire la nourriture sans consommer tout le temps d'un humain pour se nourrir. Il faut qu'il arrive à nourrir d'autres gens. Ça, c'est ce qui m'a animé pour faire de l'automatisation. Alors, quand j'ai commencé dans les robots industriels, évidemment qu'on me disait dans les conférences, mais vos robots, c'est... Ça prend du travail aux gens. Alors, je me souviens d'une conférence que j'avais faite dans le bas du vallon de Saint-Imier. Puis pour y aller, j'étais descendu et j'ai compté le nombre de stations-service qui n'avaient plus de pompistes. Parce que dans le temps, vous n'avez pas connu ça, mais il y avait des pompistes. Et on a remplacé tous les pompistes par des automates. Ça a, en Suisse, diminué le nombre de places de travail au moins 20 fois par rapport à ce que la robotique l'a fait. Et on était dans les leaders dans la robotique. Mais les caisses enregistreuses de la Migros, aujourd'hui, vous allez dans les magasins, c'est vous qui faites l'addition. C'est vous qui faites le travail. Ça améliore le rendement du magasin qui fait ça. Sur le plan éthique, moi, ça ne me pose pas de problème si... On est capable de toujours trouver des choses à faire pour tout le monde. Mais ce n'est pas celui qui trouve la solution de la caisse qui doit nécessairement trouver la solution d'occuper les gens. En revanche, aujourd'hui, on a effectivement, je pense, des responsabilités dans ce domaine parce que vous avez des vieilles personnes qui n'arrivent plus à aller faire leur commission. Et bien, on devrait payer des gens pour les leur faire. Et ça, il faut qu'on organise autrement notre société.
Vous êtes né à Bienne et vous êtes originaire des montagnes, du Locle même,
oui.
Industrie horlogère. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre l'assemblage de pièces de petite taille, oui. qui est votre spécialité, et l'horlogerie? Parce que c'est rien d'autre que ça, finalement.
Vous avez raison. Alors, quand j'étais assistant du professeur Burkhardt, il m'a dit qu'il faut développer des robots pour l'industrie horlogère. Alors en fait, j'étais payé comme assistant chez lui par l'industrie horlogère. Mais je la connaissais mal. Je connaissais d'autres industries, mais celle-là, je la connaissais mal. Et j'ai appris à travailler dans ce domaine, du petit, du très petit. Et puis, quand j'ai été nommé professeur, le président Badou, de l'époque, me dit quelles sont vos ambitions comme professeur, qu'est-ce que vous voudriez changer dans la société technique qui nous entoure. Je lui ai dit, j'aimerais que les horlogers aient besoin de l'école polytechnique fédérale. Et là, il a rigolé, il m'a dit, alors ça, vous pouvez toujours essayer, vous n'y arriverez jamais. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai travaillé avec toutes les grandes entreprises horlogères.
Donc, c'est l'histoire de Swatch ?
Oh, pas seulement. La Swatch, quand je suis arrivé, la Swatch existait, mais c'est pas seulement Swatch. Vous savez, Swatch, c'est un cas particulier. C'est faire une montre bon marché en grande série. Mais l'horlogerie suisse, elle ne vit pas de ça. Nous avons c'est l'horlogerie haut de gamme. Parce qu'en Suisse, on ne produit que 3% des montres du monde entier. Mais à peu près 70% du chiffre d'affaires. Donc c'est les montres haut de gamme, aujourd'hui, qui nous font vivre.
Est-ce que selon vous, on en parle beaucoup, il manque le personnel spécialisé en Suisse? Est-ce qu'on approche d'une pénurie de spécialistes encore plus grave que...
Ce qui est très simple. Aujourd'hui, en Suisse, on forme la moitié des ingénieurs qu'on engage. On forme la moitié des médecins qu'on engage. Là, vous parliez tout à l'heure de responsabilité. Pour moi, elle est engagée. On ne peut pas dire en Suisse, nous allons nous appuyer sur la formation en médecine, en ingénierie, sur la formation des pays qui nous entourent. C'est incorrect. On devrait assumer un volume qu'on occupe, que les gens après aillent ailleurs. Je n'ai pas d'objection. Mais on ne peut pas être en déficit permanent de la moitié du volume. Ça, ce n'est pas correct.
Est-ce que vous croyez que nous avons un rôle à jouer comme Fondation Suisse d'études dans ce débat? Est-ce que...
Absolument pas. Non. Pour moi, vous êtes sur un autre plan. Le rôle que vous avez à jouer, il est plutôt que les talentueux profitent de leur talent pour faire des choses qui ne se font pas d'habitude. Vous vous occupez de la culture de l'imprévu, de la culture de ce qui sort des normes, de ce qui sort de ce qui se fait d'habitude. Et ça, c'est un rôle que vous devez jouer. Mais vous ne pouvez pas jouer tous les rôles. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de médecins, puisque c'est au même titre que les ingénieurs. Je ne sais pas si c'est à l'école polytechnique qu'on doit former des médecins. Moi, je crois qu'on devrait former des médecins qui apprennent à soigner les gens. Mais là, j'ai aussi des doutes sur notre système universitaire, qui a plus tellement de médecins qui savent soigner, qui forment les autres. Hein. Il y a un problème là. Ben, on a aussi ce problème-là dans l'ingénierie. Si on met que des scientifiques brillants et pas quelques ingénieurs qui ont pratiqué le métier d'ingénieur, on aura de la peine à former des ingénieurs. En philologie, il faudrait aussi des gens qui aient travaillé le domaine.
La philologie, elle est prédestinée à l'enseignement. À l'enseignement humaniste.
À l'enseignement
et
humaniste.
Là aussi, on pourrait dire que quelqu'un qui connaît tous les manuscrits jusque dans les derniers recoins, toutes les notes et les notes apportées aux notes par d'autres philologues dans le passé, etc., qui ont fait, c'est un travail qui est dans la recherche de base en philologie, mais ça ne suffit pas si on ne transmet pas ensuite et on en fait quelque chose.
Pour ça, il faut que ces professeurs enseignent. Mais il ne faut pas qu'ils fassent que de la recherche. Et il faut qu'ils aient pratiqué certaines choses pour se rendre compte de l'importance de Rabelais, de ses contributions. Et puis, quand Rabelais monte toutes ses utopies, mais c'est génial, ces utopies.
Thélème, ça doit vous plaire.
Mais oui, Thélème. Moi ça m'adore, j'adore.
Fais
ça.
Ce que voudra.
Voilà. Mais c'est exactement ça. Mais c'est fondamental d'avoir réfléchi à ça. Et d'avoir réfléchi à l'apport de Rabelais. Et pas de rester aux bons mots qu'on trouve dans Gargantua. Il faut avoir passé ce stade. Mais il faut l'expliquer. Parce que les étudiants à qui on explique ça, ils vont pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et aller à l'essentiel.
Alors en fait, mais je voudrais revenir aussi à ce thème de l'internationalité. Donc, un aspect particulier qui concerne la Fondation Suisse d'études, c'est l'idée que la Fondation est nationale dans un État fédéral composé de cantons où même la formation académique, hormis les PFL et les PFZ, et cantonal, finalement. L'État en Suisse, c'est le canton.
C'est vrai.
Et nous avons ce problème que c'est plus difficile pour nous, Suisses, de faire l'encouragement de l'excellence ou du talent, comme vous dites, que pour les Allemands, qui n'ont que des Allemands, qui parlent tous la même langue. Où il y a peut-être quelques différences entre les Allemands, de l'ex-RDA,
les Länder sont très différents.
Ils sont très différents, mais pas tant qu'en Suisse.
Ouais,
il y a quand même. Alors moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous croyez qu'il y a une autre définition du talent ou de l'excellence dans les différentes zones linguistiques de Suisse ou en Suisse romande? Est-ce qu'il y a une autre idée qu'en Suisse alémanique?
Non, ça je crois pas. Je crois qu'il y a une autre idée en France, il y a une autre idée en Allemagne, mais je pense que les Suisses romands et les Suisses allemands sont très proches là-dessus. Vous savez, on n'aime pas les médailles ici. On aime. C'est pas dans notre nature.
Tout le monde est content de Wawrinka ou de Federer. Tout le monde trouve ça excellent et très bien. Mais s'il s'agit du meilleur en physique ou en mécanique ou en littérature ou en philologie, c'est pas forcément très sympathique. On trouve que c'est des gens qui sont peut-être arrogants.
Oui, tout à fait. Mais regardez, si vous jouez au tennis ou si vous courez 100 mètres pour faire quelque chose de plus simple, vous êtes d'accord que le chronomètre va mesurer votre performance et d'une manière objective et comparable. Maintenant, si vous dites quel est le meilleur en philologie, mais ça n'a aucun sens, c'est absurde. Donc il faut utiliser les moyens de mesure à bon escient. Et puis dire qu'un type est le meilleur physicien, ça n'a aucun sens. Donc les prix... Moi, je ne suis effectivement pas du tout favorable au prix dans le domaine de la fondation. Parce que vous voyez, quand je compare, je vous parlais d'un physicien tout à l'heure qui est allé en Chine, qui est revenu, qui fait un tas de choses. Mais je peux vous parler d'une musicienne qui chante, qui a fait en même temps...
Eve Mode.
Oui. Alors, si vous regardez Eve Mode, elle s'est occupée de droit. Ce qu'elle a fait en droit, elle est super brillante. À un moment donné, elle m'a dit, mais est-ce qu'il faut que j'aille pendant les vacances à New York, aux Nations Unies, jouer à ce jeu où les jeunes représentent les différentes nations? J'ai dit, mais oui, allez-y, profitez. Alors elle a fait ça. J'ai dit, mais alors quand vous revenez, vous nous racontez. Alors on a fait un repas, puis elle nous a raconté comment ça s'était passé. Mais cette fille, c'est passionnant. Bon, elle n'a plus le temps maintenant. Parce que maintenant, elle
est engagée en France, elle chante à l'opéra de Strasbourg.
Elle est à l'opéra de Strasbourg. Ouais. Oui, mais vous savez, elle avait déjà, pendant ses études, chanté à la Scala de Milan. Hein. Donc, super brillant. Et puis, elle venait à l'IPFL avec une Smart limitée à 45 parce qu'elle n'avait pas 18 ans, de 16 à 18 ans, parce que elle gagnait du temps par rapport aux petits trains, tous les petits trains qu'elle devait prendre pour venir. On en riait beaucoup de ça. Et puis, quand elle avait 18 ans, elle m'a dit, il faut que je passe mon permis, que je puisse enlever mon 45 et puis débrider ma voiture. Puis après, elle s'est mise à voyager tellement plus loin que de toute façon, elle perdait beaucoup plus de temps. On est resté d'ailleurs en relation.
Vous la saluez bien de ma part.
Je ne manquerai pas. Mais, vous voyez, elle a gagné des prix. Parce que dans le domaine du chant, on fait des concours. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est meilleure musicienne que la harpiste que j'ai eue aussi, qui, elle, m'avait demandé, et elle a obtenu le soutien de la Fondation, pour aller faire un concours aux États-Unis. Parce que c'était le seul grand concours pour les harpistes. Ben oui, parce que c'est stimulant, mais c'est comme mon coureur de 100 mètres que j'enverrais à une compétition où il va rencontrer d'autres coureurs qui vont aussi vite. Mais dans le 100 mètres, vous avez un seul critère. Tout simple, vous comparez sans problème. Tandis que les autres domaines, mais c'est complexe. Et réduire pour pouvoir les classer, ça m'énerve.